Les chariots étaient disposés en cercle autour du bosquet. Une partie des domestiques s'efforçait de retenir les chevaux, les attelages étant toujours harnachés, tandis que les autres se cachaient où ils pouvaient, afin d'échapper à la pluie d'éclairs et de feux. De fait, à part une exception qui avait failli être malheureuse, tous les projectiles se concentraient sur les chariots et les combattants, et sur les Aes Sedai. À cheval, elles observaient la bataille un peu à l'écart de la mêlée, mais pas tant que ça, et elles se dressaient de temps en temps sur leurs étriers pour mieux voir. Rand repéra très vite Erian, une mince femme aux cheveux noirs montée sur une jument grise. Alors que Lusterin grognait, le jeune homme frappa d'instinct et sentit aussitôt la déception du spectre. Un tissage d'esprit vint couper Erian de la source, une légère résistance indiquant que sa connexion avec le Saïdar était rompue, et avant même que ce bouclier soit noué, une massue d'air assomma la sœur qui tomba de sa selle. S'il décidait de la calmer, Rand entendait qu'elle sache qui le faisait et pourquoi. Une Aes Sedai cria que quelqu'un devait s'occuper d'Erian, mais personne ne tourna la tête vers les arbres. Ces femmes ne pouvant pas sentir le Saïdin, elles devaient croire qu'Erian avait été touché par un projectile quelconque, venu de devant les chariots, pas de derrière. Scrutant les autres cavalières, Rand repéra Catherine. Allant et venant sur son hongre bai aux longues jambes, la sœur bombardait les aïels de boules de feu. Usant de la même combinaison d'esprit et d'air, Rand la mit hors d'état de nuire. Inconsciente, elle glissa de sa selle, un pied restant coincé dans un étrier.
« Oui, » jubila Lusterin. « Et maintenant, au tour de Galina, elle, je la veux plus que tout. »
Rand ferma les yeux. Que faisait-il donc? C'était Lusterin qui enrageait contre ces trois femmes, au point de ne plus pouvoir penser à autre chose. Bien sûr, il avait aussi envie de les châtier. Mais tandis qu'il réglait ses comptes personnels, une bataille avait lieu et des hommes mouraient. Des promises aussi, sans nul doute. Rand neutralisa la Sedai la plus proche de Catherine avec sa combinaison d'esprit et d'air, puis il approcha d'un autre arbre et fit subir le même sort à Saren Nemdal. Ensuite, il fit le tour du bosquet, multipliant les attaques surprises, un peu comme un coupe-bourse. Mine renonça à le soutenir, mais elle resta mobilisée, au cas où il en aurait besoin.
« Elles vont finir par nous voir !»
souffla-t-elle.
« L'une d'elles aura bien l'idée de regarder derrière elle. »«
Galina !» rugit Lusterin. « Où est-elle ?»
Rand ignora Mine et le spectre. Comme dans un jeu de quilles, Coiraine et deux femmes dont elle ne connaissait pas le nom basculèrent de leur selle. Les Aes Sedai n'avaient aucun moyen de comprendre ce qui se passait. Sur tout le périmètre, derrière les chariots, des sœurs tombaient de cheval. Les rescapées s'écartèrent un peu plus, tentant de combler les trous dans leur ligne de défense. Puis elles redoublèrent de violence contre les aïels. La pluie d'éclairs et de boules de feu se transforma en tempête. Certaines que les coups venaient d'en face d'elles, les sœurs continuaient de voir leur rang s'éclaircir, et elles ne comprenaient pas pourquoi. Les effets de leur perte d'effectifs ne tardèrent pas à se faire sentir. Les aïels essuyèrent beaucoup moins de feu, alors que les champions et les soldats en vert continuaient d'encaisser de rudes coups. Prenant l'avantage, les guerriers du désert commencèrent à s'infiltrer dans les brèches entre les véhicules, et en renversèrent même certains. Sous les yeux stupéfaits de Rand, une marée d'aïels voilés de noir déferla sur les défenseurs. Les champions et les hommes de Gawain tentèrent de les repousser, les Aes Sedai restantes les soutenant avec leur feu. Mais ce n'était pas tout. Des aïels affrontaient d'autres aïels. Des Sissois Yaman, reconnaissables à leur bande rouge, et des promises portant un brassard de la même couleur, se battaient contre des compatriotes dépourvus de ces signes de reconnaissance. Des lanciers du Kairien et des soldats de Mayenne déboulèrent aussi dans la mêlée, s'en prenant aux champions et aux aïels sans bandeau ni brassard. Rand se demanda s'il était finalement devenu fou. Mais il avait conscience de la présence de Mine serrée contre son dos. Si elle était réelle, ce qu'il voyait devait l'être aussi. Une dizaine d'aïels, tous aussi grands que lui, voire davantage, se mirent à courir vers Rand. Voyant qu'ils ne portaient pas de bandeau, le jeune homme les regarda avancer, intrigué, jusqu'à ce que l'un d'eux brandisse sa lance tenue à l'envers comme une massue. Rand canalisa le pouvoir. Aussitôt, du feu sembla exploser à l'intérieur de ses guerriers. Tous sans exception, les déchiquetant de l'intérieur. Des corps carbonisés et en lambeaux s'écroulèrent aux pieds de Rand. Monté sur un étalon bais, Gawain apparut soudain, épée au poing. Une bonne vingtaine de ses soldats derrière lui. Alors que les deux hommes se défiaient du regard, Rand implora la lumière de ne pas avoir à blesser le frère d'Elaine.
« Min !»
lança Gawain d'une voix éraillée.
« Je peux te sortir de là !»
La jeune femme s'accrocha si fort à Rand que celui-ci se demanda s'il aurait pu la détacher de lui, au cas où il l'aurait voulu. Puis elle se risqua à sortir la tête de derrière l'épaule du jeune homme et la secoua vivement.
« Je reste avec lui, Gawain. N'oublie pas qu'Elaine l'aime. »
Les sens amplifiés par le pouvoir, Rand vit les jointures de Gawain blanchir sur la poignée de son épée.
« Chisao !»
ordonna-t-il d'une voix qui ne tremblait pas.
« Rassemble la jeune garde. Nous allons nous frayer un chemin hors de cet enfer. »
Son ton devint glacial.
« Altor, un jour je te verrai mort. »
Talonnant leur monture, le frère d'Elaine et ses compagnons s'éloignèrent en criant « Jeune garde » à plein poumon. D'autres soldats en vert les rejoignirent. Un homme en veste noire déboula devant Rand, les yeux rivés sur Gawain. Devant les cavaliers, le sol explosa en une gerbe de terre et de feu. 6 ou 7 tombèrent de leur monture, mais Gawain réussit à rester en selle. Rand le vit du coin de l'œil, juste avant d'expédier l'homme en veste noire sur le sol avec un gourdin d'air. Le coup n'ayant pas été très violent, le type le regarda, l'air furieux. Si Rand ne l'avait jamais vu, l'inconnu portait sur son col l'épée et le dragon, et le Saïdin coulait en lui. Taïm parut se matérialiser près de Rand. Des dragons bleus et or enroulés autour des manches de sa veste noire, mais son col vierge d'insigne, il baissa les yeux sur l'homme à terre.
« Gedwin, tu ne frapperais pas le dragon réincarné, pas vrai ?»
Une seule phrase, dite sur un ton calme et ferme. Et le type se releva péniblement, puis salua en se tapant du poing sur le cœur. Rand voulut voir ce qu'il était advenu de Gawain, mais ses yeux tombèrent sur un grand groupe d'hommes, un étendard au sanglier blanc battant au vent, qui se frayait un chemin sanglant parmi les aïeuls, d'autres soldats en veste verte luttant pour les rejoindre. Son étrange sourire rictus sur les lèvres, Taïm se tourna vers Rand.
« Considérant les circonstances, je suppose que tu ne m'en voudras pas d'avoir affronté des Aes Sedai malgré tes ordres. J'avais de bonnes raisons de venir te voir à Caerien et... »
Taïm haussa les épaules.
« Tu es dans un piteux état. Me permettras-tu de... »
Le sourire, ou rictus, disparut quand Rand recula pour échapper aux mains tendues du faux dragon repenti, entraînant Min avec lui. Si c'était possible, elle s'accrochait encore plus à lui désormais. Comme toujours quand Taïm était là, Loustérine délirait au sujet de le tuer, d'en finir avec les rejetés et de massacrer tout le monde. Rand cessa vite de l'écouter, sa voix devenant comme le bourdonnement d'une mouche. Un petit truc qu'il avait découvert dans le coffre, alors qu'il n'avait rien d'autre à faire que d'explorer le bouclier et écouter dans sa tête la voix d'un homme qui, la plupart du temps, n'avait pas toute la sienne. Loustérine ou non, Rand n'avait aucune envie d'être guéri par Taïm. Si cet homme le touchait avec le pouvoir, même sans mauvaises intentions, il risquait de ne pas pouvoir s'empêcher de le tuer.
« Comme tu voudras, »
marmonna Taïm.
« Je crois avoir assuré la sécurité du campement. »
Ça ne semblait pas être de l'avantardise. Si le sol était couvert de cadavres, il restait très peu de combattants encore actifs à l'intérieur du cercle de chariots. Soudain, un dôme d'air couvrit tout le périmètre. Un trou ménagé au sommet permettant à la fumée de s'échapper. Ce n'était pas un unique tissage de Saïdine, remarqua Rand, car on voyait les joints de tous les flux individuels qui le composaient. À première vue, il devait y avoir dans les 200 hommes en veste noire sous ce dôme. Quoi qu'il en soit, les éclairs et les boules de feu qui le percutaient explosaient sans faire de dégâts. Partout ailleurs, le ciel lui-même semblait en feu et le vacarme perçait les tympans. Des promises aux brassards rouges et des Sissoyamans se tenaient sur le périmètre intérieur de l'invisible barrière, en compagnie de Kyrieniens et d'hommes de Mayenne, beaucoup ayant perdu leur monture dans la bataille. De l'autre côté, une masse grouillante de Shaido se pressait contre l'obstacle sans substance qui les séparait de leurs ennemis. Certains le frappaient avec leurs lances ou se jetaient contre. Mais les armes s'arrêtaient dans le vide et les corps rebondissaient en arrière. Sous le dôme, les derniers combats moururent sous le regard de Rand. Surveillés par des guerriers et des promises à bandeaux ou brassards rouges, des Shaido désarmés, le visage de marbre, retiraient leurs vêtements. Capturés sur le champ de bataille, ils allaient porter pendant 1 an et 1 jour la robe blanche des Gaishain, et ce, même si leurs camarades finissaient par s'emparer du camp. Des gardes ailés et des kyrieniens en grand nombre tenaient à l'œil un groupe assez important de champions, de membres de la jeune garde, tous aussi mécontents les uns que les autres, et de domestiques terrorisés. Une bonne dizaine d'Aes Sedai avaient été coupés de la source par autant d'Achaman arborant fièrement l'épée et le dragon. Rand reconnut trois de ses femmes. Nesune étant la seule dont le nom ne lui était pas étranger. En revanche, il n'avait jamais vu les Achaman. Plusieurs femmes qu'il avait coupées de la source et assommées gisaient parmi ses prisonniers. Certaines commençaient à reprendre conscience pendant que des dévoués, reconnaissables à l'épée d'argent sur leur col, utilisaient le Saïdine pour traîner d'autres sœurs sur le sol et les ajouter à ce groupe. Les deux femmes assommées par l'explosion du coffre et leur compagne, qui hurlait toujours, furent elles aussi conduites près des autres. Quand elles les virent, plusieurs sœurs, parmi celles qui étaient conscientes, se détournèrent et vomirent tripes et boyaux. D'autres Aes Sedai encore étaient présentes sous le dôme. Entourées par des champions et surveillées par des hommes en veste noire, mais pas coupées de la source, elles regardaient les Achaman avec autant de méfiance que leurs collègues prisonnières. Jetant de fréquents coups d'œil à Rand, elles se seraient approchées de lui sans la vigilance des hommes en noir. Rand constata qu'Alana était là. Donc, il n'avait pas eu d'hallucination. S'il ne reconnut pas toutes ses compagnes, il en identifia assez à son goût. 9 sœurs en tout. 9. Autour du cocon de vide, une colère noire se déchaîna, et le bourdonnement de Loustérine monta de plusieurs tons. Au point où il en était, Rand ne fut pas surpris de voir apparaître Perrine, le visage et la barbe couverts de sang, suivi par Loyal, armé d'une hache et boitillant, et par un type aux yeux brillants qui aurait pu passer pour un Zingaro, la tenue correspondait, s'il n'avait pas brandi une épée, à la lame rouge de sang. Rand faillit jeter un coup d'œil alentour pour voir si Matt n'était pas de la fête. Du coup, il vit Dobraine à pied, une épée dans une main et la hampe de l'étendard écarlate dans l'autre. Nandera rejoignit Perrine et abaissa son voile. Une autre promise approcha, sans que Rand la reconnaisse d'emblée. Puis il sourit, ravi de revoir Soline en Cadinsor.
Rand !
S'écria Perrine.
Tu es vivant ! Que la lumière en soit louée ! Notre plan prévoyait que tu ouvres un portail pour que nous filions tous, mais c'est raté. Rouark et beaucoup de ses guerriers sont encore de l'autre côté, au milieu des Shaido. Idem pour les Kyrianiens et les gardes ailés. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux hommes de Deux Rivières et aux matriarches. Les Aes Sedai étaient censés rester avec elles, mais...
Perrine posa sur le sol la tête de sa hache, et il s'appuya aux manches. Sans ça, rien ne garantissait qu'il aurait tenu debout. Des cavaliers, des guerriers au bandeau et des promises au brassard se pressaient aussi à l'extérieur du dôme, qui ne les laissait pas plus passer que les Shaido. Très vite, ces malheureux furent submergés par les aïeuls ennemis.
« Dissipez le dôme !»
ordonna Rand. Perrine soupira de soulagement. Avait-il cru que son ami laissa ses alliés se faire tailler en pièces ? Loyal soupira aussi. Pas la lumière. Quelle opinion avait-il de lui ? Mine se mit à masser le dos du jeune homme en lui murmurant à l'oreille des propos apaisants. Bizarrement, Perrine la regarda comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Surpris par l'ordre de Rand, Taïm n'en était pas le moins du monde soulagé.
« Seigneur dragon, » dit-il, glacial. « J'estime qu'il y a encore plusieurs centaines d'Aiel, des Shaido, là-dehors. Certaines très puissantes, sans parler de milliers de guerriers armés de lances. À moins que tu tiennes à découvrir si tu es immortel, je suggère... que nous attendions quelques heures. Le temps de connaître assez bien cet endroit pour ouvrir des portails en sachant où ils nous conduiront. Puis que nous fichions le camp. Dans une bataille, les pertes sont inévitables. Aujourd'hui, j'ai perdu 9 hommes qui seraient bien plus difficiles à remplacer que n'importe quel nombre d'Aiel renégats. Dans nos rangs, tous ceux qui mourront seront tombés pour le dragon réincarné. »
S'il avait accordé un peu d'attention à Nandera et à Soline, Taïm aurait sûrement modéré son ton et choisi plus soigneusement ses mots. Dialoguant par geste, les deux promis semblaient prêts à étriper l'homme sur le champ. Ses yeux jaunes, à la fois déterminés et pleins d'appréhension, rivaient sur Rand. Perrine se redressa de toute sa taille.
« Rand, même si Danil et les matriarches sont restés en arrière, comme le prévoyait le plan, ils ne partiront pas tant qu'ils verront ça. »
Perrine désigna le dôme, ses limites visibles parce que les éclairs et les boules de feu continuaient d'exploser.
« Si nous restons ici pendant des heures, les Shaido finiront par se retourner contre nos amis. Si ce n'est pas déjà fait. Rand, pense à Danil, à Ban, à Will et à Tel. Amis, est dehors. Sorulea aussi, et... que la lumière te brûle ! Rand ! Beaucoup de gens sont tombés pour toi sans que tu le saches. »
Il reprit son souffle.
« Au moins, laisse-moi sortir. Si je peux les rejoindre, je leur dirai que tu es vivant et qu'ils peuvent battre en retraite l'esprit tranquille. »
« Nous devrions sortir à deux, »
dit Loyal en brandissant sa hache.
« Oui, à deux, nous aurions plus de chance. »
Le Zingaro eut un sourire d'anticipation.
« Je vais ouvrir une brèche dans le dôme. »
commença Taïm, mais Rand l'interrompit brusquement.
« Non !»
Pas pour les gens de Deux-Rivières. Il ne devait pas sembler s'inquiéter davantage pour eux que pour les matriarches. À dire vrai, il devait même paraître s'en soucier moins. Amis étaient dehors. Les matriarches ne participaient jamais aux batailles. Qu'il s'agisse d'un conflit rangé ou d'une querelle de sang, elles ne s'en mêlaient pas. Pour lui, elles avaient jeté leurs coutumes aux orties, sinon leurs lois. Les abandonner ne le tentait pas davantage que de laisser Perrine retourner dans cet enfer. Mais quoi qu'il décide, ça ne devait pas être pour sauver les matriarches ou les hommes de Deux-Rivières.
Taïm, Sevana veut ma tête. Apparemment, elle a cru pouvoir s'en emparer aujourd'hui.
Le ton neutre que le vide conférait à la voix de Rand était parfaitement adapté à la situation. Pourtant, ça semblait inquiéter Mine, qui continuait à masser le dos du jeune homme comme si elle avait voulu le calmer.
Je veux lui faire savoir qu'elle s'est trompée. Taïm, je t'ai demandé de transformer des hommes en armes. Montre-moi que tu as réussi. Dispersez les Shaido, mieux, écrasez-les.
À tes ordres, Seigneur Dragon.
Si Taïm était tendu depuis le début, il se montra soudain plus dur que la pierre.
Qu'on fasse flotter mon étendard à un endroit où les Shaido pourront le voir,
ordonna Rand. Ainsi, tous les gens qui se trouvaient à l'extérieur du dôme sauraient qu'il tenait le camp. Avec un peu de chance, ça inciterait les matriarches et les gens de Deux-Rivières à se retirer. Les oreilles de Loyal s'agitèrent nerveusement. Alors que Taïm s'éloignait, Perrine prit Rand par le bras.
J'ai vu ce qu'ils ont fait, mon ami. C'est...
Malgré son visage et sa hache rouge de sang, le jeune homme semblait toujours révulsé.
« Que voudrais-tu que je fasse ?»
demanda Rand.
« Quel choix s'offre à moi ?»
Perrine lâcha le bras de son ami.
« Je n'en sais rien. Je ne suis pas forcé d'aimer ça, quoi qu'il en soit. »«
Radi, lève l'étendard de la lumière !»
cria Taïm, le pouvoir amplifiant sa voix. Utilisant des flux d'air, Jour Gradi arracha l'étendard écarlate des mains de Dobraine, qui en resta bouche bée, et le fit léviter jusqu'au trou d'évacuation de la fumée. Puis il lui fit traverser cet orifice, l'emblème du Seigneur Dragon émergeant au milieu des éclairs et des boules de feu qui explosaient sans faire de dégâts. Alors qu'ils se rassemblaient, Rand reconnut quelques hommes en veste noire, mais à part pour Jour, il aurait eu du mal à leur donner un nom. Il identifia pourtant Damer, Fedwin, Eben, Jahar et Torval. Parmi eux, seul Torval portait le dragon à son col.
« Aishaman, en formation de bataille !»
tonna Taïm. Les hommes en noir vinrent se placer entre la barrière invisible et toutes les autres personnes présentes dans le périmètre. Seuls Jour et les types qui surveillaient les Aes Sedai ne les imitèrent pas. À part Nessuné, qui regardait avidement tout, les sœurs de Tarvalon s'étaient toutes laissées tomber à genoux. Apathiques, elles ne regardaient même pas les hommes qui les avaient isolés de la source. D'ailleurs, Nessuné elle-même semblait, comme les autres, à deux doigts de se sentir mal. Les rebelles de Salidar, elles, étudiaient froidement les Aishaman. De temps en temps, elles tournaient leurs yeux glaciaux vers Rand. Kalana ne quittait pas du regard, bien entendu. S'avisant que sa peau picotait, Rand supposa que les neuf sœurs s'étaient unies au Saïdar. Sinon, de si loin, il n'aurait rien senti. Avec un peu de chance, elles auraient assez de plomb dans la cervelle pour ne pas tenter de canaliser le pouvoir. Les hommes en noir qui les surveillaient étaient gorgés de Saïdine à en exploser, et ils semblaient au moins aussi tendus que les champions, qui pianotaient nerveusement sur la poignée de leur épée.
« Aishaman, soulevez le dôme de 6 pieds !»
Obéissant à l'ordre de Taïm, les hommes en noir firent léviter le dôme. Les Shaido qui tentaient de le traverser, surpris de ne plus sentir aucune résistance, basculèrent en avant. Se remettant très vite du choc, ils chargèrent, mais ils n'avaient pas fait un pas quand Taïm cria
« Aishaman, pas de quartier !»
Le premier rang de Shaido explosa. Pour décrire le phénomène, il n'existait pas d'autre verbe. Des corps vêtus de Kadinsor se désintégrèrent en un geyser de sang et de chair. Des flux de Saïdine traversèrent ce rideau rouge et vinrent réduire en bouillie le deuxième rang d'Aiel. Puis le troisième, le quatrième et les suivants subirent le même sort, comme s'ils venaient se jeter sur un hachoir géant. Devant ce spectacle, Rand eut la gorge serrée. Perrine se plia en deux pour vomir, une réaction que son ami comprit parfaitement. Alors qu'un nouveau rang d'agresseurs volait en éclats, Nandera mit une main devant ses yeux et Souline se détourna. Le tas de cadavres déchiquetés commençait à composer une sorte de muraille. Personne n'aurait pu résister à ça. Entre deux vagues de morts invisibles, les premiers Shaido décidèrent de battre en retraite. Jouant des coudes, ils tentèrent de se frayer un chemin parmi leurs frères d'armes qui chargeaient toujours. Dans cette incroyable mêlée, des corps recommencèrent à exploser. C'en fut trop. Comme un seul homme, tous les Shaido se débandèrent. En même temps, les éclairs et le feu qui martelaient le dôme devinrent moins nombreux.
« Un chaman !»
ordonna Taïm.
« Vague des ferlandes de terre et de feu !»
Sous les pieds des Shaido les plus proches des chariots, le sol se souleva, puis explosa en une gerbe de flammes et de terre, envoyant des guerriers voler dans toutes les directions. Avant même que les cadavres soient retombés, le phénomène se reproduisit, décrivant une sorte d'onde circulaire autour du camp. On eût vraiment dit une déferlante, qui balayait les Shaido sur une profondeur de 50 pas, puis de 200. Paniqués, les guerriers jetèrent leurs lances et leurs rondaches. Désormais, le dôme n'était plus attaqué. La débandade se transformait en déroute.
« Assez !»
lança Rand. Le rugissement des explosions couvrant sa voix, il recourut au même tissage que Taïm utilisait pour amplifier la sienne.
« Assez, Taïm !»
Ces deux mots retentirent au-dessus du vacarme. La déferlante décrivit encore un cercle, puis Taïm cria.
« Achaman, repos !»
Pendant un moment, un silence assourdissant régna sur le charnier, puis des gémissements et des cris retentirent. Sous un grand tas de morts, des blessés bougeaient encore. Et derrière la muraille sanguinolente, des Shaido fuyaient, laissant derrière eux de petits groupes de Sisoyaman, de promis aux brassards rouges, de Kyrieniens et de gardes ailés, certains encore à cheval. Tandis que quelques aïels abaissaient leurs voiles, tous ces rescapés avancèrent d'un pas hésitant vers les chariots. Grâce à sa vision amplifiée par le pouvoir, Rand aperçut Rouark. Il boitillait, un bras pendant le long du corps, mais il était vivant. Loin derrière lui, des matriarches et des hommes de Deux-Rivières se tenaient immobiles. De si loin, Rand ne reconnut personne. Mais à la façon dont il regardait les Shaido en fuite, les archers de Deux-Rivières étaient stupéfiés comme tout le monde sur le champ de bataille. Une vague de soulagement submergea Rand, pas assez puissante cependant, pour le guérir tout à fait de sa nausée. Le visage pressé contre sa poitrine, Mine pleurait. Pour la consoler, il lui caressa les cheveux.
« Achaman !»
dit-il, se félicitant que le vide élimine toute émotion de sa voix.
« Vous avez été parfait. Taïm, je te félicite. »
Alors que les hommes en noir lançaient des vivates, Rand se détourna pour ne plus voir le charnier. Ce faisant, il se trouva face aux Aes Sedai. Si Merana se tenait en arrière, Alana s'était campée devant lui, en compagnie de deux sœurs qu'il ne connaissait pas.
« Tu as été parfait !»
dit une des deux inconnues, une paysanne avec un visage carré sans âge et un regard qui parvenait à rester serein, tandis qu'elle ignorait ostensiblement les Achaman.
« Je suis Bera Harkin, et voici Kiruna Nachiman. Nous sommes venus à ton secours, avec l'aide d'Alana. »
Un ajout hâtif, sans doute à cause du froncement de sourcils de l'intéressé.
Même s'il s'avère que tu n'avais guère besoin de nous. Cela dit, c'est l'intention qui compte, et votre place est avec ces femmes,
dit Rand, en désignant les sœurs isolées de la source et étroitement surveillées. 23 femmes, compta-t-il. Galina n'était pas du nombre. Le bourdonnement de Loustérine se fit plus fort, mais Rand refusa d'écouter. L'heure n'était pas aux crises de folie furieuse. Kiruna se redressa de toute sa hauteur. À l'évidence, elle n'avait rien d'une paysanne.
« Tu oublies qui nous sommes. Les autres t'ont maltraité, certes, mais... »«
Je n'oublie rien, Aes Sedai, »
coupa Rand.
« J'ai dit que 6 sœurs pouvaient venir, mais j'en compte 9. Je voulais que vous soyez sur un pied d'égalité avec les femmes de la tour. Eh bien, parce que vous êtes 9, vous allez l'être jusqu'au bout. Elles sont à genoux, alors faites comme elles. »
Les sœurs regardèrent Rand sans tressaillir. Les Achamanes, sentit le jeune homme, préparaient des boucliers d'esprit. De la méfiance s'afficha sur le visage de Kiruna, puis de Béra et des autres. Une vingtaine d'Achamans les entouraient, rendez-elles. Taïm intervint, son expression ressemblant enfin à un vrai sourire, à peu de choses près.
« Agenouillez-vous et jurez fidélité au Seigneur Dragon. Sinon, nous vous forcerons à mettre un genou en terre. »
À la manière des récits et des légendes, l'histoire se répandit à travers tout le Kairien, du nord au sud et de l'ouest à l'est, transmise par des caravanes de marchands, des colporteurs et de simples voyageurs enclins à s'épancher dans les auberges. Comme les récits et les légendes, elle se modifia cette histoire, chaque fois qu'on la racontait. S'étant retournée contre le dragon réincarné, les Aiel l'avaient tué au puits de Doumaï ou ailleurs. Non, les Aes Sedai l'avaient sauvé. Pas du tout. Des sœurs l'avaient tué. Non, apaisé. Non, conduit à Tarvalon. Et là, il croupissait dans le donjon de la Tour Blanche. Foutaise. La chair d'Amirlin en personne s'était agenouillée devant lui. Phénomène très inhabituel en matière de récit, ce fut le plus proche de la réalité qui finit pourtant par s'imposer. Un jour de feu et de sang, un étendard en lambeaux arborant l'antique emblème des Aes Sedai avait flotté au-dessus des puits de Doumaï. Un jour de feu, de sang et de pouvoir, la tour immaculée brisée, ainsi que l'annonçaient les prophéties, s'était inclinée devant cet emblème oublié. En ce jour, les 9 premières Aes Sedai avaient juré fidélité au dragon réincarné. Et le monde en avait été métamorphosé jusqu'à la fin des temps.